se reparle. Fine, comme un aspirateur qui aura envie de vider son sac.
CO2, mon amour.
Moi, c'est comme si tous mes neurones étaient remis en place. Je vois clair, c'est lumineux. Je vois l'avenir.
Moi, je me sens con. À 24 ans, quand j'ai pu passer 12 heures par jour le cul dans mon taxi, à aspirer des particules fines, il faut que je respire.
Avec Denis Chessou.
J'ai envie d'être une vache.
Pareil.
Pareil. Un taureau.
Sur France Inter.
Eh ben nous, ça nous va très très bien d'être un taureau, puisque c'est donc, vous l'avez compris, la vedette du jour avec Michel Pastoureau, qui est donc venu nous en parler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Donatien qui a eu à la technique, et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès, et c'est Xavier Pessugia qui la réalise. Alors, week-end, fête de la nature, comment dire? Il y a des fois où on peut la haïr quand elle se déchaîne. Vésubie, Roya, Tinée ont avalé la colère du ciel et l'ont rejeté en fracas de boue, de bois, de pierre sur le destin des hommes. Alors au départ, une eau plus chaude en Méditerranée, le réchauffement avance sans masque et avec plus d'énergie dans le système, une mauvaise tempête et une bagarre à mort entre le chaud et l'air froid du Mercantour. Le froid, le chaud, le trop, mauvaise pioche entre les mains de qui? Les orages ont plongé tel un aigle dans ces superbes vallées. Mon village s'en est allé avec mon passé, mes amis, mes biens, mes souvenirs au sourire fracassé. Alors catastrophe exceptionnelle, oui, du jamais vu à l'échelle d'une vie, mais dont le réchauffement est l'accélérateur. Et plus haut dans la montagne, les animaux, les arbres épargnés sentent bien qu'au fil du temps, notre insouciance, notre méconnaissance, nos dénis ont déréglé le moteur. Les amarres du monde stable d'avant sont rompues. Alors oui, le ciel peut nous tomber sur la tête. Oui, nous avons fabriqué de l'incertitude en faisant sortir les virus du bois et les rivières de leur lit. Mais là, il faut penser d'abord avec empathie aux habitants, penser les plaies de ces trois superbes vallées et réfléchir, car la nature ne joue pas la carte du court terme. Fête de la nature, make our betterave great again. La PAC de demain est et sera la clé majeure de l'état de la biodiversité et de la qualité de l'eau de nos rivières européennes. Sera-t-elle orientée presque comme aujourd'hui avec une béquille chimique de précision, engrais azoté et retenue d'eau comme fer de lance? Mon champ de betterave est malade, donnez-moi un médicament docteur dont les abeilles et le contribuable paieront les conséquences diluées. Alors fête de la nature bien sûr, au lieu de lui faire sa fête, eh bien goûtons-la, ressentons, connaissons-la et une fois de plus, créons enfin un compagnon heureux avec elle. La vie peut être belle et c'est tant mieux. Alors le taureau arrive là, tranquillement entre vos oreilles. Ne vous inquiétez pas, vous êtes absolument à la bonne distance. Carnet de nature consacré au taureau. Tenez, on débute par ce son. Betty Bonaille est chargée d'accueil à la maison du Grand Site à Aiguemorte.
Alors le taureau ici, c'est vraiment le roi. On ne va pas prendre d'autres noms, c'est le roi. Tout tourne autour du taureau dans cette culture camarguaise. Et le reste est faire-valoir. On va parler du cheval Camargue, mais qui est absolument fabuleux, mais c'est vraiment un faire-valoir du taureau.
C'est-à-dire qu'il est là pour diriger.
Il est là pour diriger, c'est l'outil de travail du gardien, parce qu'il est très adapté pour le travail dans les marécages et tout. Donc c'est vraiment ce cheval qui va permettre de s'occuper du taureau, et ce taureau roi que tout le monde veut aller voir chaque année dans les courses.
C'est un peu le chêne berger, quoi. C'est un peu...
Le chêne berger, alors je ne sais pas si j'oserais dire ça, mais parce que le cheval lui-même aussi, il y a des élevages vraiment fabuleux. Le cheval Camargue, voilà, il y a. Mais voilà, on reste toujours sur le taureau. Notamment, voilà, si vous allez dans les écoles ici, les gamins jouent au taureau. Ils font les cornes avec leurs doigts. Alors, un fait le raseteur, l'autre va faire le gardien. Vous vous retrouvez souvent en tant que parent attaché à une chaise parce que le petit a trouvé quelques ficelles, une corde et il vous attache comme dans le char. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a même des écoles de raseteurs. Tellement il y a cette passion du taureau et les petits garçons, même des filles maintenant, veulent aller affronter ce roi pour se confronter à lui.
Alors affronter, évidemment, c'est un mot qui est tout à fait intéressant. Bonjour à vous, Michel Pastoureau.
Bonjour.
Alors Michel Pastoureau, vous venez d'écrire au Seuil, Le taureau, une histoire culturelle. C'est vrai que vous aimez beaucoup vous frotter, on va dire, à certains animaux qui sont clivants, comme l'ours, le loup, etc. Et donc là, on est face donc à ce fameux taureau. J'allais presque dire que c'est un animal qui est plus mythifié, qui est plus vénéré, qui l'attire peut-être la sympathie. On est plus dans ce registre-là avec le taureau.
Oui, et ça vient de loin, puisque c'est un animal que les sociétés antiques autour du bassin méditerranéen et au Proche-Orient ont en effet vénéré. Peut-être même le taureau a-t-il été le premier dieu, dispute ce rôle avec l'ours.
Oui.
Si l'ours du paléolithique a servi de divinité, évidemment c'est lui le premier dieu. Mais les préhistoriens en discutent, ne sont pas d'accord entre eux. En tout cas, pour le taureau, les cultes sont bien attestés très tôt, dès le néolithique, dans certaines régions du Proche et du Moyen-Orient.
Et alors, merci vraiment à l'Auroch, parce que c'est l'ancêtre du taureau, des bœufs, des vaches, on le sait, avec ces grands taureaux sauvages qui ont été peints sur les parois de Chauvet et de Lascaux. Et là, en fait, il rentre dans un bestiaire, on va dire, central. Hein, je ne sais plus quel est l'historien qui avait donné ce nom-là, mais le bestiaire central avec l'ours, le renard, le corbeau, etc. Il fait partie de notre corpus.
Voilà, oui, cette notion de bestiaire central a été élaborée par François Poplin, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Et pendant des années, lui et moi avons essayé de dresser la liste des animaux qui, les premiers, entraient dans ce bestiaire central des sociétés européennes. La liste n'est pas très longue. Le taureau en fait partie. Je crois qu'on peut énumérer la liste ainsi. Chez les sauvages, l'ours, le loup, le cerf et le sanglier. Parmi les oiseaux, le corbeau, bien sûr, l'aigle et le cygne. On pourrait ajouter le lion, qui n'est pas indigène en Europe, mais qui fait quasiment partie de la vie quotidienne des mentalités européennes. Et puis chez les domestiques, entre guillemets, le taureau, le cheval, le chien, le porc, qui fait couple avec le sanglier, et peut-être le coq et quelques autres.
Alors nous allons donc détailler tout cela, voir, on va faire un grand tour aussi du côté des Romains, du côté de la mythologie. Je vous propose d'abord effectivement de cette chanson, puis nous revenons donc avec ce taureau gambadé dans les prés.
I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well. They come and go before you know. I am their friend, they don't pretend. We disagree about my misery. I see a huge storm of hay. To the sky I give a five. I cannot words say what the hell. Then I keep calm and dive. I dance with the worst, worst dances with me. He smiles at me, I love for us both. We dance a vals, we dance a twist. With a nice swing, once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife.
Choisi par Thierry Lupin, c'était la chanteuse marocaine Meriem Abouloufa.
Ce taureau, c'est nous. Il n'a jamais rouspété.
CO2, mon amour.
Il est robuste. Il a la noblesse, il est beau. Comme nous. Comme tous les paysans qui sont ici.
Denis Chessou, sur France Inter.
Il y a toujours quelque chose de taureau en nous, on pourrait dire, cher Michel Pastoureau. Et donc, à quel moment cet animal commence à devenir, on va dire, une divinité et pourquoi ?
Alors, pourquoi on le sent assez bien, notamment à partir du moment où on a des textes, c'est expliqué. Ce qu'on admire chez le taureau, c'est sa force, c'est sa fougue, c'est sa fertilité, cette espèce d'énergie vitale qui se dégage de cet animal. Donc, on admire, on cherche à s'en emparer par différents moyens. D'abord en le transformant en animal totem, en animal dont on cherche à capter la fougue et la force, mais aussi la fécondité, par exemple en attachant l'arrière aux cornes du taureau avec l'idée que ces cornes sont en relation avec la lune et que de la lune, une énergie passe dans les cornes de l'animal et des cornes de l'animal vers le bois de l'arrière et donc dans la terre pour la fertiliser.
Ce que je vous propose, c'est de faire maintenant un petit tour. Donc, on repart en Camargue. On va aller dans la réserve naturelle du Scamandre, donc qui appartient au syndicat mixte de la Camargue gardoise. Et là, Serge Colombo nous attend. Il nous pose le décor, le paysage, qui est aussi celui du taureau.
Là, c'est intéressant, hein, justement. On a trois types de paysages sur un petit espace. On va retrouver de la roselière, de la sansouire et de la prairie. Donc, la Camargue, on sait que c'est plutôt plat, mais ce sont des paysages subtils. En fonction de la hauteur du sol, de la topographie, on aura plutôt de la prairie, plutôt du marais, comme la roselière, ou de la sansouire, qui est un milieu caractéristique de la Camargue. Et c'est ce qu'on appelle aussi les parcours, où les manades vivent, des parcours, donc où les taureaux et les chevaux vont et viennent toute la journée.
Nous parlons là sous l'œil des cigognes qui sont bien installées hein, sur leur poteau, donc là tout va bien pour elles. Et alors parlons justement de ce taureau. D'ailleurs, on en a effectivement qui sont pas très loin, c'est pas les vôtres. Hein,
enfin, c'est pas les nôtres, c'est la manade voisine.
Ouais.
Donc on salue les taureaux, les bio, comme on les appelle en Camargue, ce sont les bœufs, les bœufs, ouais. C'est un mot occitan.
Les bio.
Les bio, voilà. Ouais. Et donc, ils sont là et ils contribuent à l'entretien de ces paysages et de la faune, de la flore qui vont avec.
C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de biodiversité parce qu'on élève des taureaux comme cela ici ?
Ben, c'est ce que l'on considère. On peut se dire que c'est aussi de l'interprétation, hein, c'est la façon dont on voit les choses. Mais on se rend bien compte que sans les taureaux et sans les chevaux, il y aurait d'autres types de paysages, des milieux qui seraient davantage fermés. Alors, ça peut être intéressant, en effet. Mais tout ça est un jugement de valeur. Et en Camargue, on considère que ces milieux ouverts par l'élevage, par les manades, sont très intéressants et riche.
Alors quand vous faites de l'éducation à la fois à la nature, à l'environnement et donc aussi aux traditions, quelle est la place du taureau ici ? On a quand même l'impression qu'on pense, on vit taureau, on ne fait pas que ça, ouais. Mais quand même.
Non mais quand même, on les présente un petit peu comme les sentinelles de la protection de cette biodiversité et puis de tout un patrimoine, d'une culture locale. On parle beaucoup de biodiversité. Alors nous, on a un jeu de mots, on parle de biodiversité.
Bio.
Voilà, exactement. Biodiversité.
Comme le bœuf, donc.
Exactement, avec ce taureau qui intervient pour la présence d'oiseaux particuliers. Voilà, on entend un petit peu là qui sont en train de gazouiller. Mais bon, des hérons garde-bœufs. Le maintien de milieu ouvert pour des espèces qui ne viendraient pas si ce n'était pas le cas.
Alors on sait que ces taureaux en fait ont deux fonctions. Soit c'est de la viande, et d'ailleurs c'est intéressant parce que je crois qu'une des premières AOC...
Oui c'est ça, oui, oui. Alors en 1996, les éleveurs de Camargue ont été précurseurs en souhaitant que la viande produite, même si ce n'est pas le but premier, soit reconnue au titre d'une AOC à l'époque, qui reconnaît la qualité de l'exploitation agricole, et même les conditions d'abattage, ça va jusque-là, et de commercialisation, donc vraiment un produit de qualité qu'on peut inviter tout le monde à découvrir, la viande de taureau rassodi bio.
Mais sinon ici, avant tout, c'est du jeu taurin. Racontez-nous comment ça se passe, parce que là aussi, on a des taureaux cultes. Hein.
Oui, alors on peut remonter très loin dans l'histoire. Hein. Au départ, ces taureaux, on a essayé de les dompter. En fait, ils étaient à l'état sauvage en Camargue, et dans les fermes du territoire, on capturait ces taureaux pour essayer de les mettre au joug pour les travaux agricoles. Mais ces taureaux, ils étaient assez combatifs, et on s'amusait comme ça dans le cadre des fêtes familiales, dans les mariages, les anniversaires, à se faire peur avec ces taureaux, on leur accrochait quelque chose entre les cornes, et ça devenait un jeu, on va dire, privé.
On est à quelle époque à peu près là ?
Alors là, on est au Moyen-Âge, on va dire. Hein ? Mais il a fallu l'arrivée dans le secteur d'un immigré italien, le marquis de Baroncelli, donc là on est début 20e siècle, donc c'est pas si vieux que ça, qui a petit à petit codifié ces jeux et créé la Camargue d'aujourd'hui avec ses spectacles, cette compétition qui est même reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que course camarguaise, c'est quelque chose de formidable, mais qui est très limité à un territoire, donc il s'agit de préserver cette culture très locale.
Dans le Gard, c'est la saison des fêtes votives et des courses camarguaises. Beaucoup de monde dans la nature.
Une arrivée spectaculaire. ces taureaux se jettent à l'eau et traversent le canal sous les acclamations du public. Cela s'appelle la gaze, un terme qui désigne le passage à gué en provençal.
Voir ces chevaux, ces taureaux, c'est émouvant, c'est beau à voir. On les voit mouillés, enfin, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça dans l'eau.
Parce que les taureaux, ils nagent là, hein, ils n'ont pas pied. Hein. C'est une tradition qui est importante, oui, nous on ne veut pas la perdre ici en Camargue. Hein.
Je suis un taureau, je peux vivre combien de temps? Moi je ne me rends pas compte, et qu'est-ce qu'on me demande comme boulot là aussi?
Alors un taureau, il va être essayé dans les jeux de course camarguaise à partir de l'âge de 3 ans. Ouais. C'est un ternin, on va dire. Et s'il fait ses preuves, petit à petit, ben, il va devenir de plus en plus performant. Une véritable vedette, il y aura son nom écrit en gros sur les affiches pour attirer les spectateurs. Et la carrière va durer jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Ensuite c'est la retraite et la belle mort retraitée pour être enterré debout, statufié comme le sont certains cocardiers, donc ces taureaux vedettes en Camargue.
C'est quoi les noms des taureaux? Qu'est-ce que l'on a parmi les jeux?
Je veux fâcher personne, mais on parle de Goya, par exemple, parmi les taureaux vedettes, de Gandar, de la manade Blatière, qui a sa statue ici, à Vauvert, Ratis, de Renault, enfin, il y en a beaucoup, Baraillé, de la manade Lafont. Donc, ce sont ce qu'on appelle les biodors, qui ont été des vedettes pendant une ou plusieurs années, même les meilleurs taureaux d'une saison.
Comment ça se fait qu'en fait le taureau à l'origine soit arrivé ici? Enfin, ça vient d'où, même avant le Moyen Âge, quoi.
Alors, il semblerait que ce soit une espèce qui vienne d'Asie. Hein, donc on peut remonter à l'Auroch aussi, hein, ouais. Mais qui se soit arrêté dans le delta du Rhône et qui s'y soit installé finalement.
C'est déjà pas mal, quoi.
C'est déjà pas mal, voilà. Ouais, il s'est trouvé pas mal.
Alors si on s'y trouve bien, c'est-à-dire quelles sont les conditions, quand même le milieu, faut en parler. Qu'est-ce que c'est le milieu pour le taureau?
Alors c'est une espèce quand même très rustique, mais bon, il faut qu'il trouve sa nourriture. Et l'idée, c'est qu'il vive dans de très grands espaces. On est vraiment dans l'élevage extensif. Et on parlait des parcours tout à l'heure par rapport au sans-fuir. Mais ces taureaux, ils font des transhumances quotidiennes, d'un côté à l'autre de ces grands espaces. Et il s'agit qu'ils aient à minima un hectare par bête. Vous imaginez ce que ça peut correspondre pour des élevages moyens qui ont autour de 150 bêtes. C'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, des élevages prestigieux où il y a jusqu'à 400 têtes.
Vous nous rappelez ce qu'est quand même le sans-fuir, ouais. Qu'on voit un peu plus loin quand même. Là c'est pas une herbe très haute. Hein, donc.
Non, alors les sans-fuir, ce ne sont pas des herbes vraiment que les taureaux apprécient, non. Mais ils sont obligés de passer par là, de se muscler. Ça fera partie ensuite des qualités qu'ils auront, être des bons cocardiers pour les jeux taurins. Ils passent dans ces sans-fuir et ces paysages-là, ils ont la caractéristique d'être marqués par le sel qu'il y a dans le sol. Hein, donc on a des végétaux halophiles. Salicorne, soude, saladelle. Donc les taureaux, ils passent par là. Alors c'est pas mal qu'il y ait un peu de sel. On sait que les bovins aiment ça. Mais après, ils vont rejoindre les marais de pâturage, les prairies, donc tout ça au fil des saisons. Et il peut y avoir des zones d'estive, bien sûr, et aussi des transhumances hivernales dans des zones un peu plus hautes, mais toujours dans le secteur camarguais.
Alors, vous êtes tourné vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut se dire que y a des gens qui se sont installés là, qui sont un peu des notables. Et puis, où ça bouge peu. On est quand même sur une terre assez conservatrice, faut même bien le dire. Et il y a quand même un avenir. Alors, c'est quoi?
En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, cette pratique-là. C'est ce que beaucoup revendiquent aujourd'hui, l'élevage extensif, l'entretien de paysages, la biodiversité. Bon, il se trouve que les manades sont là depuis des décennies, on dira pas des siècles et des siècles, mais ça commence à dater un peu. Et on peut considérer que cette pratique-là, elle est prépondérante pour maintenir la Camargue, la maintenir, en tout cas l'entretenir autant que possible, parce qu'on est aussi tributaire des changements climatiques, toutes ces choses-là. Mais on a un patrimoine. On est vraiment dans la notion de patrimoine, à essayer de préserver, et ça va passer par l'activité humaine d'élevage et non pas par la simple contemplation de cette beauté qu'on ne peut pas nier, mais l'homme a bien sa place là-dedans.
Allez visiter dans ce Gard cette réserve naturelle du Scamandre. Merci à Serge Colombo. Là, on l'entend, à Michel Pastoureau, donc auteur du Taureau, une histoire culturelle au seuil, que c'est un animal quand même qui est extrêmement identitaire. Mais j'allais presque dire que, à l'époque des dieux, dans le top 5 des monstres les plus fameux de la mythologie, il était là aussi, il était assez identitaire.
Oui, bien sûr. Les mythologies anciennes, grecques, romaines, celtiques, un peu moins germaniques, parlent beaucoup des animaux, et le taureau est un des plus fréquemment sollicités. Dans la mythologie grecque, il y a un assez grand nombre d'histoires de bovins, parce que posséder des bovins, c'est un signe de richesse. Donc il y a des vols de bétail, des transactions. Il y a aussi et surtout des métamorphoses d'humains en animaux.
Ça s'appelle un minotaure peut-être, non?
Alors ça nous conduit au minotaure, qui est un être monstrueux, mi-homme, mi-taureau. Il est le fruit des amours coupables de la reine de Crète, Pasiphaé, la femme du roi Minos. Une passion inouïe lui avait été inspirée par le dieu Poséidon, qui était fâché avec son mari, pour une histoire de taureau d'ailleurs. Il lui a inspiré une passion pour un animal, un taureau, et elle s'est accouplée avec lui et est né cet être que nous appelons Minotaure, qui est mi-homme, mi-taureau. Dans l'iconographie, on a à peu près tous les cas d'hybridité. Le plus souvent, la moitié du corps postérieur est taureau, la moitié de l'avant-corps est humain, mais on a aussi le cas inverse. Alors le roi Minos, effrayé par cette créature, a fait construire un lieu où personne ne pourrait accéder pour voir le monstre. C'est le labyrinthe construit par l'architecte Dédale, qui se trouvait en Crète à ce moment-là. Et le taureau a été enfermé là, et il devait dévorer pour sa nourriture des jeunes filles, des jeunes gens, un tribut payé chaque année à la Crète par les peuples vaincus, notamment la cité d'Athènes, qui devait envoyer chaque année 7 jeunes gens et 7 jeunes filles. Et un jour, nous raconte Ovide et tous les mythographes de l'Antiquité, le fils du roi Égée, roi d'Athènes, Thésée, a décidé de se joindre à ce groupe destiné à être dévoré par le monstre. Il est entré dans le labyrinthe, mais grâce à une ruse que lui avait conseillée la fille du roi Minos, Ariane, il a pu retrouver son chemin à la sortie après avoir affronté le monstre et l'avoir terrassé. Le monstre était fatigué.
Et alors Michel Pastoureau, si on est au 4e siècle, là on est en concurrence avec le christianisme qui doit s'affirmer. Et on doit éliminer un culte, qui est celui de Mithra. Et dans Mithra, bah, le taureau il avait toute sa place. Donc comment ça se passe entre ce déclin peut-être un peu du taureau, peut-être au profit du bœuf
Voilà, au déclin de l'Empire romain, des religions orientales gagnent du terrain sur la religion romaine. C'est le cas du christianisme, mais c'est aussi le cas du mithracisme, qui est non pas une religion du taureau, mais une religion qui a pour culte le soleil. Le taureau étant l'animal de sacrifice, l'animal principal, et ce sacrifice est sanglant. Les prêtres et les fidèles s'arrosent du sang de taureau. Pour le christianisme, tout ça est abominable. Pour le christianisme, le sacrifice du Christ sur la croix, ça suffit.
Oui, ça suffit.
Il n'y a pas besoin de se livrer à des sacrifices d'animaux. Et comme le christianisme l'a emporté sur le mithracisme, à partir des 4e, 5e siècles, c'est fini, il prend en aversion l'animal vedette de la religion rivale, le taureau, et valorise au contraire le bœuf, animal patient, animal docile, animal travailleur.
Qui réchauffe le petit Jésus, peut-être aussi pour ça que c'est un bœuf et pas un taureau, je ne sais pas.
Voilà, dans la crèche, les deux animaux, le bœuf et l'âne, sont d'abord des attributs iconographiques. Les textes sacrés ne parlent pas du tout de présence d'animaux dans le lieu où Jésus est né, mais les images, pour montrer qu'on se trouve dans une étable, mettent en scène deux animaux, un âne et un bœuf, et l'exégète consiste à étudier qui est le plus près de l'enfant Jésus, qui le réchauffe de son souffle. Est-ce que c'est l'âne? Est-ce que c'est le bœuf?
Oui, grand débat là.
Statistiquement, oui. C'est plutôt le bœuf. Voilà. Donc le christianisme valorise le bœuf au détriment du taureau. Et les textes du Moyen-Âge qui parlent du taureau sont très peu nombreux. C'est un animal discret pendant presque 1000 ans.
Et alors, à l'aube de la Renaissance, ils retrouvent du prestige passé. Là, ça y est, paf, il revient un petit peu dans le cœur des gens parce qu'on retourne aux textes de l'Antiquité, on relit Virgile, Ovide, etc. Donc on remet peut-être la légende de Minos aussi donc, à sa place. Ils retrouvent une place.
Voilà, on redécouvre les Antiquités dans le sol, dans les textes. On s'aperçoit que les peuples de l'Antiquité valorisaient le taureau. Donc on est au début du XVIe siècle. Et en plus, un pape, peut-être le plus mauvais pape de toute l'histoire de l'Église, Alexandre VI Borgia, par un peu le hasard, a un taureau dans ses armoiries familiales.
Oui.
C'est un taureau parlant, comme dit l'héraldique, c'est-à-dire qui forme un jeu de mots dans la langue aragonaise entre le nom de l'animal et le nom de la famille. Et ce pape Alexandre VI, à Rome, met en scène le taureau partout. Donc il n'y a pas seulement le taureau antique dans la Rome du XVIe siècle, il y a le taureau des Borgia, animal emblématique, et il est probablement celui qui, le premier, organise dans les rues et les places de Rome des spectacles de taureaux, des courses de taureaux, sans rapport avec nos corridas modernes, mais quand même, il y a des spectacles taurins qui frappent la population, qui semblent d'ailleurs les apprécier.
Alors ça va être la dernière partie de l'émission, mais on va d'abord découvrir un homme qui aime profondément donc les taureaux, c'est Jacques Blatière. Alors Jacques Blatière, nous sommes à Galician, nous sommes toujours dans le département du Gard, c'est un patriarche du taureau, hein. Donc la manade date depuis 1921, chez lui vous avez un taureau qui est enterré dans le jardin, le fameux Gand. Donc il élève des bêtes avant tout pour sa passion des courses taurines. Bon, certes, il y a un moment où ça va terminer plus ou moins en boucherie. Mais donc, sinon pour ses courses, donc des bêtes qui vont galoper dans le tauril au cul des raseteurs, qui eux veulent tirer les glands, qui veulent tirer la cocarde. Donc on n'est pas chez les éleveurs de taureaux espagnols pour la corrida. Et là, nous sommes dans un petit écrin. Il y a 400 hectares, vous avez une mosaïque de pâturages bordés de pins maritimes, de tamaris centenaires. Et nous sommes au mât des Iscles, I-S-C-L-E-S.
Le mât des Iscles, les Iscles, si vous enlevez le C, ça fait les mâts des îles. C'est une île au milieu de marée. Et à l'origine, la Camargue n'étant pas aménagée, les marées du Charnier, du Creil, des marées de la Souterraine, et c'était le seul mât qui vivait, qui était là, sur une île qui a une altitude qui est à 1 mètre, 1,50 mètre par rapport au niveau de la mer. Tout ça était entouré d'étangs et de marais, ce qui est actuellement le centre du Scamandre, ce qui est les anciens marais de la Souterraine, ce qui est l'étang du Charnier, du Creil et du Scamandre aussi.
Alors on voit aussi donc au loin parfois quelques bergeries, il n'y aura plus de moutons là ici. Donc ça veut dire que l'élevage a quand même sacrément changé, qu'on est passé de l'ovin après au bovin
ou... Oui, non, le bovin a toujours existé, maintenant, même si maintenant il s'est un peu plus développé. Mais les jeux sont nés du fait qu'on voulait approcher ces taureaux, on voulait les contenir, on voulait les dominer, sachant que dans l'histoire des peuples méditerranéens, on sait que le taureau était synonyme de fécondité, de puissance, et disons, l'homme en dominant ces animaux, arriver peut-être à s'abroger, à obtenir un petit peu les qualités de force et de virilité.
On dira gentiment que c'est la douce vanité humaine.
Peut-être, peut-être aussi.
Alors voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, énormément? Parce qu'au départ, vous êtes pharmacien, mais je veux dire que vous avez cette passion, évidemment, j'allais presque dire génétique, hein, pour le taureau. Qu'est-ce qui vous éclate lorsque vous voyez ces bêtes?
Oh, ben moi, je suis tombé dans la bassine, hein, j'ai pas eu le choix, pour ainsi dire. Ouais. Mon grand-père était là, moi j'ai bien connu mon grand-père, mes pères et mon oncle ont toujours travaillé sur des taureaux, ils ont été agriculteurs, parce qu'à l'origine, les manadiers étaient aussi propriétaires de masses, donc ils faisaient des céréales, ils faisaient de la vigne, ils faisaient des asperges, il y a eu une période d'asperges. Et les terres qui n'étaient pas exploitées, inexploitables et inexploitées, étaient dévolues au cheval ou au taureau.
Les caractéristiques du taureau.
Nous, c'est des taureaux, mais c'est des bœufs. Hein. C'est des biaous. Chez nous, le terme local en Camargue, on parle des biaous, le biaou Camargue. Moi, j'ai 80 ou 100 taureaux, on va garder 80 ou 100 taureaux en dire. Ils s'entreturent et tout ça. Donc là, dans le Loup, vous avez un loup magnifique, là, il y a 15 ou 16 taureaux. Il n'y a aucun taureau entier, ce sont que des taureaux châtrés, ce sont des biaous. Alors, je ne veux pas dire des bœufs, parce que quand on dit bœuf, ce serait méprisant de dire d'un taureau que c'est un bœuf. Mais on dit un biaou. C'est la beauté, c'est la puissance, c'est l'agressivité, c'est tout ça, moi, pour moi, le taureau. Et c'est tout le symbole de la Camargue. En fait. Le taureau et le cheval sont des garants, un petit peu, encore, de ce qui reste en Camargue.
Je suis un petit taureau, mais moi, c'est pas pareil. Je suis un petit taureau, mais moi, en plein soleil, j'entrerai dans l'arène, dans la reine.
Alors, sur la centaine de taureaux que vous avez, il va y en avoir combien qui vont devenir donc des taureaux pour les jeux taurins, pour raseteurs?
On a 300, nous on a, sur l'élevage, on a 300 têtes.
Ah,
têtes,
oui,
à peu près. Hein. Donc 150 mâles, 150 femelles. Il y a 50 jeunes taureaux, taurillons là, d'un an, 50 de 2 ans et 50 de 3 ans. Des taureaux qui sont qu'on appelle en devenir, et qui sont là pour alimenter un petit peu les jeux taurins, mais en fait, on ne les teste qu'à partir de 3 ans. Mmh. Il y a 150 bêtes qui sont en devenir. Sur les 150 autres, il y a 80 vaches reproductrices. Et puis après, on les teste à 3 ou 4 ans. Et au fur et à mesure qu'on apprécie plus ou moins leur qualité et leurs défauts, bon, mais on s'en sépare en viande de boucherie. Et puis après, ceux qui ont des qualités pour la course, bon, ben, on les sélectionne et petit à petit, on voit un petit peu leur évolution, leur parcours, leur carrière de cocardier.
Combien de temps ils travaillent, aujourd'hui plutôt?
Ah, c'est pas, ils travaillent pas grand chose, hein, nous. Ils ont pas commencé encore cette année à travailler,
oui, puisque, confinement.
Mais, généralement, un taureau, là, comme cela, ils en leur prévoient 6 courses par an. 6 fois un quart d'heure maximum.
Ah oui.
Le lendemain, on voit un peu si ça s'est bien passé, s'ils n'ont pas de coups, s'ils n'ont pas de... On les admire et on les vénère à la fois. Vous avez... Surtout ceux qui ont des qualités. Ceux qui n'ont pas des qualités, bon, ben, il faut savoir s'en séparer. Et c'était une des activités, enfin, c'était un pôle de revenus intéressant pour les manadiers que de vendre en viande de boucherie le taureau Camargue.
Alors là, celui qui nous regarde, c'est son état qui est assez vaillant, on m'avait dit. Hein, donc...
Oui, c'est le taureau qui était à Lunel la semaine dernière. Il a fait une course de taureau jeune remarquable. Hein. Beaucoup d'agressivité, de méchanceté, se cabrer après les types. Enfin, ce qu'on recherche un petit peu, quand on fait de la sélection, on essaie d'avoir des taureaux qui transmettent, hein, quand ils sont lâchés en piste, ils transmettent de l'émotion aux aficionados, hein, et aux spectateurs, hein, éventuellement.
D'accord, donc Surgit, c'est formidable parce que t'es méchant, il est... Bon, non, il est très placide, là.
Ah oui, ah ben, après en manade, ils sont dans un milieu qu'ils connaissent, hein, particulier, ils sont pas tracassés, là, on descend de la voiture tous les quatre, là, ils partent au galop, ils reviennent, ils font les fous, hein.
Ouais.
Et puis après, moi, je viens tous les jours, on vient les voir tous les matins. Donc on les surveille comme des, comme nos enfants, comme des gens, comme des taureaux de la famille.
Ouais.
Et actuellement, je vis taureau, je pense taureau, je dors taureau, je rêve taureau.
Je rêve taureau, c'était Jacques Blatière, donc à Galician. Alors Michel Pastoureau, ça nous amène ça. Alors là on parle bien effectivement des jeux camarguais, des courses camarguaises, mais ça va nous amener aussi donc sur la corrida, sur la mise à mort. Déjà, il n'y a aucune continuité, vous le pointez très bien dans votre ouvrage, entre les rituels tauromachiques de l'Antiquité, ceux des jeux du cirque non plus. Voilà, il y a eu ces mensonges, faut dire historiques, hein, qui se sont passés.
Oui, sur les origines de la corrida, il y a une grosse bibliographie qui est souvent décevante pour l'historien, parfois malhonnête d'ailleurs, mais c'est assez fréquent pour expliquer tel ou tel rituel ou pratique propre à une région, à une... Oui. Population donnée. En Europe, en général, ce que nous appelons les caractères régionaux, ça peut être le vêtement, ça peut être des danses, ça peut être des rites, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. C'est rarement antérieur à la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est vrai pour les coiffes bretonnes, c'est vrai pour la corrida espagnole. Elle apparaît dans sa forme moderne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et les premières codifications mises par écrit datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle. Je crois que ça n'a pas grand sens de remonter plus en amont. On est dans d'autres contextes sociaux et culturels, et les pratiques tauromachiques qu'on peut retrouver ici ou là sont sans aucun rapport avec nos corridas.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que en fait, cette mise à mort est relativement récente, on va dire, en France. On vous parle évidemment de tradition, mais c'est quand même relativement récent. Je parle bien de la mise à mort. Donc vous avez ceux qui vont vous dire c'est un art, c'est un spectacle, c'est un sport, c'est une tradition. Les autres vont vous dire ce sont des scènes d'abattoir dans un costume d'opérette. Donc c'est sadique, c'est honteux, c'est une mort donnée en spectacle face à des enfants avec subventionnés par de l'argent public. Pour discuter aussi avec des gens qui aiment la corrida, ils vont vous dire qu'ils prennent plaisir à la bravoure du taureau et pas forcément à la torture. Voilà, je suis obligé de dire ça parce que je discutais donc aussi avec eux. Mais est-ce que ça a lieu d'être ça encore aujourd'hui?
Moi, je suis à la fois breton et normand, donc je suis très loin des endroits où se passe ce genre de choses.
Ouais.
Donc que tous les amateurs de corrida me pardonnent, mais j'aurais tendance plutôt à en dire du mal et voir quelque chose d'abominable. C'est pas tant de mettre à mort le taureau, c'est le fait que ce soit ritualisé et surtout qu'il y ait un spectacle, qu'il y ait des gens qui viennent voir ça et qui payent pour ça. C'est ça qui est extravagant et qui est scandaleux pour le breton. Autant que je suis, évidemment.
Alors ce qui est intéressant quand même, Michel Pastoureau, et ça c'est vraiment tout au long de votre ouvrage, Le taureau, une histoire culturelle, c'est que durant 20 millénaires, le taureau est partout dans l'art contemporain, de Lascaux à Picasso qui a fait des choses sublimes, même s'il adorait la corrida, peu importe, mais il a ensemencé les arts.
Oui, c'est vrai. C'est un animal vedette de l'art européen et dans la longue durée. Il y a un petit trou, c'est le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge préfère le bœuf, mais enfin, les bovins donc ne sont pas absents de l'art médiéval. Mais du paléolithique, de la grotte Chauvet, où on voit déjà des aurochs, on est donc 32 ou 33 000 ans avant le temps présent, jusqu'à l'art le plus contemporain, figuratif, semi-figuratif, voire très stylisé. Les formes taurines sont présentes, parfois l'animal entier, parfois sa tête seule, vue de face ou de profil, parfois seulement ses cornes. Un taureau, c'est d'abord pas une corne, mais une paire de cornes, des cornes. Le livre se termine par composition extraordinaire de Picasso. C'est une selle de vélo avec un guidon de vélo de course assemblé par Picasso.
Totale, c'est dingue.
Voilà, c'est une abstraction de tête de taureau qui est magnifique et qui fait au fond écho à notre lettre A, qui est une tête de taureau aussi renversée, inventée par les Phéniciens. C'est la première lettre de leur alphabet qu'ils ont transmis à d'autres alphabets, dont notre alphabet latin. Donc entre le A et la selle guidon de Picasso, il y a 25 millénaires d'histoire autour de cet animal.
Alors vous ne repartirez pas en chevauchant un taureau en bas de la maison de la radio. Bon, en tout cas, on vous remercie de tout cœur. Merci à vous, Michel Pastoureau, donc, et pour cette histoire culturelle qui est éditée au Seuil. À très bientôt.
Merci, Denis Chessou.
Je tenais à remercier Raphaël Matevet, qui est écologue et géographe au CNRS, qui m'a présenté les différents acteurs taurins et que l'on retrouvera le 15 novembre pour un formidable bouquet, un très bon sujet sur le flamant rose, la politique du flamant rose. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission. La semaine prochaine, nous irons en Ardèche, mais un peu plus loin, parce que ça va être une ronde des vents. Je vous ferai découvrir l'école du vent à Saint-Clément. Le podcast pour l'actu du Mont Petit Loup, allez-y, abonnez-vous pour CO2 Mon Amour aussi. Le Twitter, c'est Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche.